France Inter, le 18-20.
Une semaine en France, en compagnie ce soir de l'écrivain martiniquais Patrick Chamoiseau, actuellement en résidence au musée d'Orsay, à Paris, dans le cadre du bicentenaire de la naissance de Charles Baudelaire. Pas surprenant pour un homme dont la musique intérieure est l'alexandrin, qui se définit comme un marqueur de parole et qui a décroché le plus prestigieux des prix littéraires, le Goncourt, pour Texaco, en 1992. Depuis, Patrick Chamoiseau a beaucoup écrit, des romans, des contes, des BD, mais aussi des essais sur l'identité créole. Autant dire que son regard nous sera précieux pour décrypter l'actualité de la semaine. On tentera notamment de comprendre pourquoi il y a autant de tensions autour de la crise du Covid en Martinique. On s'arrêtera aussi sur ce procès qui s'est tenu il y a quelques jours devant la cour d'appel de Fort-de-France à l'initiative de plusieurs associations qui demandent réparation pour les crimes de l'esclavage.
Nous avons un devoir aujourd'hui de réparation, de réhabilitation pour arriver au pardon.
Demande d'ores et déjà rejetée par le représentant de l'État.
L'abolition de l'esclavage remonte maintenant à plus de 170 ans. L'État français combat la demande de réparation pécuniaire qui est formulée devant un juge judiciaire.
Un reportage à suivre. À 19h, le journal d'Hélène Philly. À 19h20, le téléphone sonne. Ce soir, à l'occasion du lancement de la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière, on répondra à toutes vos questions sur le sujet, mais aussi sur le rappel de la vaccination contre le Covid. Faut-il faire les deux injections en même temps? Faut-il les espacer? Qui est concerné? N'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000. Un grand merci à toute l'équipe du 18-20, Irène Menahem qui m'a aidé à préparer cette émission, Juliette Gou qui la réalise. Merci aussi à Clémentine Ducasse pour la page web, à Ronan Mahé, Henri Bérec et Alix Barrois qui sont à la technique, ainsi qu'à nos standardistes qui, eux, sont prêts à décrocher.
Claire Servageant. Une semaine en France.
Bonsoir et bienvenue sur France Inter, Patrick Chamoiseau.
Bonsoir.
On est ravis de vous recevoir. Est-ce qu'il faut vous présenter? Vous êtes l'un de nos plus grands écrivains, auteur de nombreux livres, récits, scénarios. On vous reçoit à l'occasion de votre passage à Paris, dans le cadre de l'année Baudelaire, organisée par le musée d'Orsay. C'est en effet le bicentenaire de la naissance du poète. Mais dites-moi, poésie et peinture, ça va de pair?
Ah, bien sûr, c'est la même problématique. Là, on est dans le domaine de l'art, on est dans le domaine d'une fréquentation de la beauté. Un artiste, c'est quelqu'un qui travaille les formes, les matières et les forces avec un rêve qui n'est pas toujours réalisé, c'est d'obtenir dans une de ses œuvres une visite de la beauté. Alors, quand la beauté descend dans une œuvre, je crois que c'est ce qui peut arriver de mieux à un artiste. Et la plupart des artistes, quels que soient les artistes, moi je me considère comme un artiste. Hein. Ma matière, ce sont les langues, la forme que j'utilise, ce sont non pas les formes traditionnelles, les romans, la poésie, mais des organismes narratifs qui sont bien adaptés à la complexité du monde. Et les forces que je manie, ce sont des forces qui structurent à la fois nos situations existentielles, individuelles, et des états du monde. Hein. Nos situations existentielles sont plongées dans une globalisation, et c'est dans cette globalisation que nous devons envisager la perception de nos existences. Et l'objet de l'art aujourd'hui, c'est de poser la question comment on vit à l'échelle monde, dans une globalisation monde, dans des flux relationnels mondiaux, et qu'on puisse devenir, éviter les individualismes égoïstes et devenir de véritables personnes solidaires et responsables. Alors l'art, effectivement, couvre tout le champ du sensible, c'est-à-dire que un artiste, un écrivain a besoin des peintres, a besoin des musiciens, a besoin des chorégraphes, a besoin du théâtre. Il y a vraiment une fraternité de l'art qui est très précieuse, parce qu'elle nous permet d'ailleurs d'échapper à cette vieille partition du monde qui ne fonctionne plus, qui est la partition en état-nation.
En tout cas, là, vous vous êtes régalé depuis le début du mois d'octobre, Patrick Chamoiseau, donc en résidence au musée d'Orsay. Vous avez organisé des visites pour des groupes, ce que vous appelez des drives d'errance, hein, comme vous dites. Vous avez savouré des tableaux de manière presque privée.
Oui, parce que là, j'avais un pass et je pouvais me promener tout seul, voir ce que je voulais, entrer où je voulais. C'est quand même précieux. On n'a pas tellement l'habitude d'obtenir autant de temps pour la fréquentation des œuvres d'art, et pourtant c'est essentiel. Nous sommes dans une époque où ce qui est déterminant, ce sont nos individuations. Nous devons nous construire en tant qu'être humain, en tant que personne dans la matière du monde, mais nous devons le faire sans le prêt-à-porter existentiel que donnaient les anciennes communautés. Ce qui fait que l'individu qui doit se construire doit recevoir le plus possible quelque chose qui me paraît absolument fondamental dans sa construction, qui sont les stimulations esthétiques. Les stimulations esthétiques, donc, demandent une politique culturelle, mais ça demande aussi une fréquentation assidue, éclairée, accompagnée, décodée, libre et disponible de tout ce que l'esprit humain peut produire dans sa fréquentation de la beauté. Donc, un musée comme le musée d'Orsay, moi, j'ai vu les enfants des écoles venir là. Moi, j'étais complètement émerveillé parce qu'aux Antilles, on n'a pas la chance d'avoir. Moi, j'ai toujours fonctionné avec des images dans des livres. Et là, voir les tableaux, c'est absolument fascinant. Chez ma mère qui venait de la campagne, on avait un petit appartement de 2 pièces. Et dans la salle à manger, il y avait les 2 images de Millet. L'Angélus, les glaneuses et l'Angélus.
Que vous avez retrouvé au musée d'Orsay.
Que j'ai retrouvé.
Incroyable.
J'ai toujours vu ça, c'est en photo. Hein, et ça m'a toujours fasciné. Et les voir en vrai, voir les vraies couleurs, voir toute la complexité qui m'est mis, l'équilibre du tableau, c'est absolument fascinant. Et ça permet la stimulation esthétique. La stimulation esthétique se produit lorsqu'on entre en contact avec une œuvre d'art et que la rencontre se produit. Moi, la rencontre s'était produite de manière un peu distanciée, mais là, ça a renouvelé tout un tas d'émotions que j'ai pu expliquer aux gens.
Triple rencontre, parce qu'il y a Patrick Chamoiseau, il y a les peintres, et puis il y a Baudelaire.
Ah oui.
Voilà, parce que c'est quand même ça aussi le début de l'histoire.
Oui, oui.
Et vous allez, dimanche, on en dit un petit mot, il va y avoir un spectacle
oui.
musical.
Alors, il y a un grand
vous
spectacle
allez
musical. Je vais m'adresser à Charles Baudelaire avec mon ami le philosophe Guillaume Pijard de Guibert et en compagnie du grand jazzman Raphaël Imbert. L'idée est simple, hein, moi qui ai toujours lu Baudelaire à l'école et puis récemment attentivement, je m'aperçois que le vers de Baudelaire, même si l'apparence est une forme classique, hein, une forme de classicisme apparent, il y a dans la rythmique du vers de Baudelaire, les enjambements, les césures, les cassures, l'audace des thématiques, c'est un maître du rythme. Hein. Pour moi, Baudelaire, c'est un tambourier chez nous, ceux qui jouent le tambour et qui jouent la polyrythmie. Baudelaire est de cette nature. Sa poésie a précipité dans les formes du classicisme des déraillements sauvages, des ouvertures. Il a fait exploser tellement les formes qu'il a fallu passer au petit poème en prose, c'est-à-dire à ce que j'appelle un organisme narratif.
Votre amour de la poésie vient de loin, Patrick Chamoiseau. Je crois qu'enfant, vous rêviez d'être poète, tout simplement.
Ah oui, je me suis cru poète jusqu'à l'âge de 15 ans. J'ai commencé par la poésie et je lisais toute la poésie française. Je déclamais les vers que j'aimais. Et puis, il y a eu l'autre moment fondateur qui a été important quand même et précieux parce que mon grand frère, qui était un génie des mathématiques.
Il récitait du Césaire.
Il récitait du Césaire. Alors, chaque matin devant la fenêtre, là où le soleil se levait, il ouvrait les bras et il saluait Césaire.
Et votre père, lui, il récitait les Fables de La Fontaine.
Mon père récitait les Fables de La Fontaine. Alors d'abord, du côté de mon frère, j'ai cru que la poésie était capable de faire lever le soleil. Je ne comprenais rien à ce que Césaire racontait. Mais il y avait toute la puissance de la poésie qui pouvait faire monter le soleil. Et de l'autre côté, mon père, qui était un mulâtre, hein, chez nous, les mulâtres ont toujours cultivé une sorte d'adoration de la langue française. Et manier la langue française avec une sorte de langage fleuri était important. Et il était fasciné par les vers de La Fontaine. Ce qui fait que je l'ai souvent entendu réciter les vers de La Fontaine avec beaucoup d'emphase. Il terrifiait ma mère avec ça, parce que c'était vraiment impressionnant de l'entendre parler ce français de La Fontaine. Et c'était précieux pour moi, parce que La Fontaine, c'est vraiment un maître de la précision et du style.
Et vous dites, il impressionnait maman, parce que maman, elle parlait créole.
Elle est créolophone.
Ah, c'est ça l'histoire. Il y a eu un conflit de langue dans votre histoire.
Ah non, dans les Antilles, il y a une cohabitation des langues qui s'est transformée en ce qu'on appelle une diglossie. Alors on avait la langue dominée qui était la langue de l'esclavage, la langue des champs de canne, la langue de l'analphabétisme, la langue souterraine et populaire. Et puis il y avait la langue de l'administration, des gendarmes coloniales, etc.
Quand je dis conflit, moi je pensais à l'école surtout parce que vous, ça n'a pas été simple au départ pour vous.
J'avais ma petite langue maternelle dans la tête. Le monde m'était venu par la langue créole et je pensais en créole. Et lorsque j'arrive à l'école, le créole est interdit. Alors là, il y a eu un saccage. Je pense qu'il y a des milliers d'enfants de ma génération qui n'ont pas pu suivre, simplement parce qu'il y avait une rupture totale entre leur univers et leur imaginaire créole et ce qui était imposé par l'école très largement coloniale à l'époque.
Ça veut dire que vous, à l'école, vous vous êtes tu. Vous étiez muet.
Ah ouais, je suis... oui.
On a du mal à imaginer aujourd'hui, mais bon, vous nous le dites, on vous croit.
Le truc, c'était, comme je pense en créole, il fallait traduire pour parler en français, il fallait que je traduise ce que je pense en français. Mais la difficulté, c'est que le créole est une langue qui a surgi dans la rencontre des Amérindiens, des Africains, des Européens, mais la base lexicale du créole, c'est le français. Toutes les modalités du vieux français. Donc, il y a une proximité entre le créole et le français. Ce qui fait qu'on avait vite fait de mélanger les mots, les intonations, et les maîtres à l'époque ne supportaient pas ça. C'est comme si on infectait la langue française avec quelque chose qui relevait des caniveaux.
Donc, vous vous taisiez à l'oral, mais par contre, à l'écrit,
j'étais complètement muet. Mais comme je lisais, j'ai eu la chance, pendant que mes frères et sœurs allaient à l'école, de découvrir une boîte de pommes de terre où ma mère cachait les livres. Elle n'avait pas de bibliothèque, donc comme elle adorait les livres, elle avait une sorte de déification du savoir. Elle les mettait dans une boîte et moi, je fouille dans la penderie, je trouve la boîte de pommes de terre, je l'ouvre et je commence à fréquenter les livres, pas la lecture, mais les images des livres. Donc, j'ai eu des amis dans les livres très tard. Et après, comme j'ai commencé à lire, j'avais un univers qui était très largement transporté par la langue française et l'univers des livres. Ce qui fait que lorsque j'ai commencé à écrire, j'avais une facilité d'écriture que je n'avais pas à l'oral. Alors que chaque fois que je rendais une rédaction, la maîtresse supposait ou me soupçonnait de l'avoir fait écrite par mes parents.
Et voilà donc le début de l'histoire, Patrick Chamoiseau. On va évidemment y revenir au cours de cette émission, mais on va passer d'abord à l'actualité de la semaine. Grâce à ce mix qui a été mis en onde par Anne-Cécile Perrin, à la une, bien sûr, le coût de l'énergie.
La plupart des gens, ils appellent en urgence avec le froid et tout ça. Mais le truc, c'est qu'ils ne demandent pas de remplir énormément leur cuve. Ils ne peuvent pas se le permettre financièrement.
Le prix du fioul s'envole. Et que dire du carburant à la pompe?
Vous avez le litre de gasoil qui dépasse 1 euro, même bientôt 1,60 euro par endroit. 1,70 euro sur des stations privées à la campagne.
En 2018, les Gilets jaunes ont occupé les ronds-points pour moins que ça.
On est toujours là, on existe toujours. Ça fait 3 ans, là, on nous a un petit peu muselés parce qu'il y avait la Covid. Mais on est tous Gilets jaunes.
Éviter à tout prix le retour de la fronde.
Je veux vraiment dire à tous les Français qui nous écoutent, nous faisons le maximum pour vous aider.
Le gouvernement travaille, dit Bruno Le Maire. Un peu de patience, ajoute Gabriel Attal.
Il y a plusieurs pistes qui sont à l'étude. Il ne s'agit pas d'inventer une usine à gaz.
Ah oui, vous avez mis 8 jours à décider. Ben oui, c'est un sujet compliqué, c'est un sujet difficile. Maintenant, je dis là, le président de la République, c'est le président du pouvoir d'achat.
Il n'a pas de doctrine.
François Hollande, lui, se rappelle au bon souvenir de son successeur.
Il change au gré des événements. C'est pas le « en même temps », c'est l'air du temps.
À 6 mois de la présidentielle, une question et une seule. Qui sera qualifié pour le second tour?
Les sondages montrent que le deuxième tour est à une portée de petits points.
Jean-Luc Mélenchon veut y croire. À la droite de la droite, Marine Le Pen a la peine. Face à la concurrence Zemmour, alors elle renvoie le polémiste à ses idées.
Nous aimons tous les idées, mais ça ne remplit pas les assiettes et ça ne permet pas de payer le loyer à la fin du mois.
À droite, sur la ligne de départ de l'avant premier tour, Valérie Pécresse.
Emmanuel Macron avait promis de supprimer 120 000 postes de fonctionnaires. Cette année, il en supprime 157.
Elle veut en supprimer 200 000. Un avis, Michel Barnier?
Moi, je ne dis pas cela.
Et vous, Xavier Bertrand?
Moi, je veux être capable de faire du sur-mesure.
Il faut dire que ça peut être utile, un fonctionnaire. Exemple, les inspecteurs du permis de conduire.
Première date de conduite de disponible au vendredi 31 décembre.
Et que dire de la justice quand il n'y a pas assez de magistrats ?
C'est vrai que beaucoup travaillent le soir, beaucoup travaillent le week-end pour sortir donc des jugements.
Manque de personnel à tous les étages du service public, y compris dans l'éducation nationale, pour accompagner les élèves en situation de handicap.
C'est un superbe métier, mais on est mal considéré.
Les AESH, qui pour la plupart sont des contractuels, ont manifesté cette semaine.
Ça ne nous permet pas de vivre dignement.
17 octobre, crime d'État, ont scandé ces manifestants dimanche, 60 ans après la sanglante répression des Algériens de Paris. Certains s'en souviennent.
On a vu les gens tomber, c'était incroyable. Il y a un copain, il n'est pas revenu, ils l'ont jeté dans la Seine.
Dans un communiqué, Emmanuel Macron évoque des crimes inexcusables de la République.
C'est la première fois qu'un chef d'État en exercice utilise le mot crime et la colle à la question de l'État et de la République. C'est une avancée.
Une avancée pour l'historien Benjamin Stora, mais les manifestants du 17 octobre attendent bien plus.
1. La reconnaissance de ce crime d'État par le président de la République. 2. L'ouverture de toutes les archives. Et 3. L'inscription dans les manuels scolaires de cette histoire violente.
Et encore un grand merci à Anne-Cécile Perrin. Une semaine en France, en compagnie ce soir de l'écrivain Patrick Chamoiseau. Je ne sais pas si vous souhaitez réagir à ce que vous venez d'entendre, Patrick Chamoiseau.
Oui, il y a beaucoup de choses.
On peut choisir un sujet.
C'est-à-dire que moi, lorsque je regarde les situations du monde, je suis très sensible à la présence de la puissance planétaire totalitaire qu'est le capitalisme néolibéral. Moi, quelqu'un qui m'explique la situation du monde ou nos situations existentielles sans tenir compte de cette force centrale, totalitaire et planétaire, pour moi, comme dirait René Char, ne mérite ni égard ni patience. Quand je vois les distributions qui sont faites d'aumônes, d'obol, etc., le néolibéralisme va supprimer toute la solidarité institutionnelle mise en place par le Conseil national de la Résistance. D'ailleurs, l'État minimal, les services publics, et par contre, il va exceller dans la distribution de 100 euros par-ci, 100 euros par-là, allocation par-ci, allocation par là. C'est absolument lamentable. Et pratiquement tout ce que nous avons à faire aujourd'hui, toutes les difficultés, toutes les précarités, tout le vide existentiel qui habite nos individuations vient largement du fait que le néolibéralisme est triomphant. Et comme il est triomphant, nous avons toutes les peines du monde à imaginer une alternative. En face du néolibéralisme triomphant, il y a un vide de la pensée politique qui est absolument différent et sidérant. On n'arrive pas à imaginer une alternative. Alors le problème, c'est vrai que c'est un système totalitaire et que ça fonctionne de manière complètement mécanique.
Certains vont contester le mot de totalitaire et vont vous expliquer que c'est juste un système économique de libre-échange, d'offre et de la demande.
Oui, mais dans la mesure où il n'y a que cette imaginaire-là, le seul imaginaire qui habite la planète aujourd'hui, qui habite tous les pays, toutes les cultures, tous les individus, c'est l'imaginaire néolibéral. Le tout profit, la croissance maximale, la compétition, le marché.
Et pourtant, pendant la crise du Covid, on a remis en cause tout ça. Il y a eu le quoi qu'il en coûte.
Oui, mais on voit bien que tout le monde est rentré dans le rang. C'est-à-dire que ce qui s'est produit pendant moi, je l'ai vécu à Paris, c'était effrayant quand j'entendais les différentes réactions, les gens se retrouvent face à un grand vide existentiel. La famille est douloureusement vécue, la présence de tous dans la maison se transforme en violence conjugale, et puis il y a une espèce de désarroi. Pourquoi ? Parce que toute notre vie est organisée autour des pulsions consommatrices, il faut aller consommer, et quand on n'a pas ça, on se retrouve devant ce qui manque fondamentalement à un être humain, qui est la créativité. Le néolibéralisme, qui est une forme de domination planétaire, supprime dans chaque individu, en le transformant en données économiques et en le transformant en consommateur, supprime toute créativité. Créativité de soi, mais aussi créativité du monde.
Dans 6 mois, c'est la présidentielle, Patrick Chamoiseau. Par le passé, il vous est arrivé de soutenir Jean-Luc Mélenchon, le Front de Gauche. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, il parle de créolisation.
Est-ce que c'est extraordinaire.
Vous le suivez sur ce point-là?
Oui, c'est extraordinaire. qu'un politique français, en général, les politiques français ne s'intéressent pas à l'outre-mer. Ce qu'ils appellent l'outre-mer, moi je déteste ce terme, l'outre-mer, ça n'a vraiment aucun intérêt. Et ils ne s'intéressent pas à ce qui s'y passe, et ça reste très superficiel. Pour un Français de base, l'outre-mer, c'est des cocotiers, des acras, des allocations, etc. Mais il y a une pensée, il y a une poésie, il y a une effervescence humaine, il y a des réalités, des potentialités qui pourraient faire merveille dans les Amériques, dans la Caraïbe, si l'initiative, les capacités, l'intelligence collective de ce qu'on appelle l'outre-mer était libérée, on aurait d'autres équations. Et ça, c'est précieux qu'un homme politique français puisse se dire, mais il y a dans l'idée d'Édouard Glissant de la créolisation quelque chose qui peut nous aider à comprendre le monde. Et d'ailleurs, la pensée de Glissant est absolument essentielle pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans le monde.
J'en reviens un instant à la crise du Covid, parce que elle a été terrible, la quatrième vague a été terrible, il y a eu beaucoup de décès, un taux de vaccination très faible. Le week-end dernier, il y a eu des affrontements au CHU de Fort-de-France, le CHUM, où la direction a dû accepter même que les soignants puissent continuer à travailler même sans être vaccinés. Il y a eu une passe d'armes à l'Assemblée nationale cette semaine, à l'occasion du débat sur la prolongation de l'état d'urgence sanitaire. Alors on va écouter le député communiste martiniquais Jean-Philippe Nilor et la réponse du ministre de la Santé, Olivier Véran, qui a volé au secours de sa collègue Brigitte Bourguignon.
Je vous en prie, sortez de la caricature des bons et gentils soignants blancs qui volent au secours des peuples d'outre-mer. Au-delà de cette caricature, il demeure une situation qui est une réalité. 35% de vaccinés parmi les soignants, à l'image de l'ensemble de la population. Alors que faire ? Pousser à la répression, comme ça a été fait vendredi dernier à l'intérieur même du CHUM de Fort-de-France ? Est-ce que la solution, lorsque vous parlez de renfort, c'est de faire appel à des soignants de l'Hexagone pour remplacer les soignants de Martinique ou de Guadeloupe ou de Guyane?
Il y a 2500 soignants qui ont quitté la métropole depuis le 15 août pour aller en Outre-mer. Ils l'ont fait avec la vocation, ils l'ont fait avec leur humanisme, ils l'ont fait avec leur fierté. Moi, je suis très fier d'eux, c'est cette image que je retiens, et pas les petites invectives personnelles qui n'ont pas leur place dans un débat parlementaire de qualité.
Voilà pour ces propos recueillis à l'Assemblée par Martinique la Première. Patrick Chamoiseau, quand on entend cet échange et quand on voit ce qui s'est passé vendredi dernier, quand on entend tout ce qui se passe autour de cette crise, on a comme l'impression que le combat renvoie à autre chose, qu'il y a un passé qui n'est pas réglé. Je me trompe ?
Oui, il y a deux données. Il y a un fait qui est un fait contemporain. Toutes les sociétés du monde sont des sociétés d'individus, que chaque individu déploie non pas un imaginaire collectif qui serait organisé par des partis, des syndicats, des systèmes de pensée comme ça se faisait auparavant. On se retrouve d'une certaine manière seul. Et cette solitude, on se construit avec des réseaux sociaux, des impressions, des impulsions qui sont un petit peu chaotiques. En même temps, avec le triomphe du néolibéralisme, on a un effondrement de la qualité politique. Donc on a une impuissance politique, et dans le contexte colonial ou post-colonial des Antilles, l'impuissance politique face à la situation qui demanderait une pensée véritablement audacieuse, nouvelle, capable de penser le monde, capable de penser la Martinique dans le monde, c'est le néant total, le vide total. Donc on accompagne comme ça des individuations qui sont des individuations un peu déresponsabilisées et qui n'arrivent pas à envisager un problème comme celui de la pandémie sur des bases qui nous feraient avancer et qui nous feraient quitter ce phénomène.
Mais excusez-moi, la vaccination, on a affaire à une pandémie, là, c'est même pas une histoire de la métropole et des territoires d'outre-mer. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué de se vacciner aux Antilles ? Pourquoi est-ce que les politiques ont simplement peur de conseiller aux gens de se faire vacciner ? Je parle pas de tous, mais de beaucoup.
Ah oui, ouais, ça renvoie à quoi, ça ? Parce qu'il y a une très très forte, mais ça c'est dans tous les pays du monde, pratiquement. Hein. Peut-être que dans certains pays, les politiques ont un courage d'inciter les gens à se faire vacciner. En Martinique, il y a quand même des politiques qui le font. Moi, s'il fallait intervenir, je dirais qu'il faut aller se faire vacciner. Moi, je n'ai aucun problème avec le pass sanitaire. Je n'ai aucun problème. C'est la seule possibilité de sortir de ce phénomène-là. Ce sont des solutions qui sont mises en œuvre et qui sont proposées. Donc, il faut absolument qu'on parvienne à avoir ce bouclier vaccinal le plus largement possible aux Antilles et considérer toute autre attitude comme une forme de déresponsabilisation. À partir de là, on peut essayer de comprendre le phénomène, société d'individus, pris dans un système complètement archaïque de déresponsabilité collective, ce qu'on appelle l'outre-mer, ce sont des vestiges coloniaux administrés à 7000 kilomètres, avec une déresponsabilisation insidieuse qui passe par des primes, des exemptions, des zones franches, des allocations de toute nature, un esprit de dépendance et d'assistanat qui crée à la fois une déresponsabilisation collective et aussi des déresponsabilisations individuelles. À cela s'ajoute qu'il y a un vide politique. Nous sommes incapables aujourd'hui d'articuler une pensée, je dirais, anticolonialiste qui tienne la route, en tout cas qui tienne compte de la situation du monde. Et nous sommes incapables d'articuler une pensée qui tienne compte du phénomène de capitalisme néolibéral qui est l'ennemi fondamental. La matrice des vestiges coloniaux, c'est le néolibéralisme. Alors quand les politiques se retrouvent face à une impuissance politique, une absence de pensée politique, soit ils suivent le mouvement populistes et les individus qui s'agglutinent autour de quelques kystes cognitifs, soit ils se taisent.
Et puis il y a aussi autre chose, Patrick Chamoiseau, il y a la mémoire de l'esclavage hein, qui est présente dans tout ce qui se passe. La loi Taubira, on se souvient, on a fait un crime contre l'humanité. Pour beaucoup de descendants d'esclaves, ça ne va pas assez loin. Il doit y avoir réparation. D'où le procès qui s'est tenu la semaine dernière devant la cour d'appel de Fort-de-France, à l'initiative d'associations des Antilles, de la Guyane, mais aussi du MIR, le mouvement international pour les réparations, du Conseil mondial de la diaspora panafricaine. Alors on écoute deux des protagonistes de ce procès, et puis on en parle juste après. D'abord, Maître Sarah Aristide, l'une des avocates des associations.
Nous n'oublions pas que nous sommes des descendants de nègres marrons, mais nous avons un devoir de mémoire. Nous devons poursuivre le travail de Madame Taubira. Nous avons un devoir aujourd'hui de réparation, de réhabilitation pour arriver au pardon. Et nous ne sommes pas dans la résilience, nous sommes dans la force et la résistance.
Et toujours au micro de nos confrères de Martinique la Première, Maître Patrick Baudouin qui représente l'État français.
Ce sont des faits qui remontent à une période comprise entre le 15e et le 19e siècle. L'abolition de l'esclavage remonte maintenant à plus de 170 ans. Et il y a des prescriptions plus ou moins courtes, mais qui sont opposables, mais qui n'atteignent pas 170 ans. Désormais, d'ailleurs, la prescription en matière civile dans ce domaine, c'est de 5 années. Alors, on nous dit, oui, mais on ne pouvait pas agir auparavant. Ça me paraît un petit peu facile, il faudrait le démontrer. Donc, sur le plan juridique, effectivement, l'État français combat la demande de réparation pécuniaire qui est formulée devant un juge judiciaire.
Voilà, et je précise que l'arrêt sera rendu le 18 janvier 2022. Que pensez d'une telle action, Patrick Chamoiseau ?
Moi, je suis pour les réparations.
Même si longtemps après ?
Ah, bien sûr, parce que les effets du crime sont encore visibles. On ne peut pas comprendre le monde contemporain, on ne peut pas comprendre la situation du continent africain, on ne peut pas comprendre la situation des Noirs américains, on ne peut pas comprendre le fait que dès qu'un policier blanc se trouve en face de Noirs, il tire immédiatement tellement il est terrifié. On ne peut pas comprendre que la France ait encore des territoires qu'on appelle l'outre-mer qui sont dans des processus d'impuissance, de vide de pensée, de vide politique et de manque d'initiative, quelque chose qui est absolument inadmissible. Si on ne se réfère pas aux grandes structurations qui ont été mises en place par le phénomène esclavagiste et colonial et qui perdurent dans le présent. Quand un crime contre l'humanité perdure dans le présent et détermine des effets visibles dans le présent, il doit être réparé. Alors la réparation, l'avocat, il exagère, la réparation est un phénomène multidimensionnel. Ce n'est pas simplement une affaire pécuniaire. Il y a une dimension symbolique, il y a une dimension de recherche, bien connaître le phénomène, il y a des dimensions éducationnelles. Vraiment, il faudrait simplement mettre en place une commission de grande qualité qui nous permette de déterminer toutes les modalités, les différents niveaux de réparation. Si on ne le fait pas, on plombe d'une certaine manière ce nouveau niveau de notre participation au monde. Parce que quelle est la tâche de notre génération ? C'est construire une présence au monde. La frappe occidentale sur le monde a déterminé beaucoup de génocides, beaucoup de douleurs, beaucoup de zones d'ombre et beaucoup, je dirais, de structuration qui tire un certain nombre de populations et de sociétés vers le bas. Il faut réparer. Si on veut vivre la relation, vivre ensemble dans le monde, il faut réparer les grandes blessures. Et ça, il ne faut pas lâcher. Et réduire la question de la réparation à une question pécuniaire, c'est une absurdité.
il faut donc réfléchir à l'histoire. Et est-ce qu'il faut aller jusqu'à déboulonner les statues comme, comme la tendance
Non, moi je suis pas. Moi j'aurais pas. Lorsque j'avais 17 ans, j'avais écrit un texte pour parler de la, d'une politique des statues. C'est vrai que l'ordre colonial en Martinique et dans les Antilles et un peu partout dans les pays colonisés a organisé son système symbolique. L'espace est structurellement organisé autour de grands symboles de la colonisation. Mais comme disait Césaire, le problème a été posé à Césaire très rapidement. On lui a demandé s'il fallait faire table rase. Il dit, nous, si on fait table rase, on ne pourra pas comprendre la situation qui est la nôtre. Nous sommes nés dans la colonisation, nous sommes nés dans l'esclavage. Notre présence ou notre surgissement en tant que peuple a été inauguré par le génocide amérindien. Donc, il faut laisser ces traces-là. Ce ne sont pas ces traces symboliques-là qui posent le problème. C'est la façon dont nous les interprétons, nous les positionnons, la façon dont nous les augmentons d'un autre discours. Il était tout à fait possible, tout en laissant ces statues dans des places appropriées. Hein. Bon, Desnambuc, je l'aurais renvoyé là où il avait débarqué, juste sur la plage du Carbet, pour rappeler comment, à partir de là, va commencer le génocide amérindien. Joséphine, je l'aurais renvoyé à son habitation, et là, on aurait mis en place tout un dispositif pédagogique pour montrer que l'habitation a été un ferment de créativité qui va donner toute la culture populaire antillaise. Donc il y a tout un travail très particulier qui est celui d'une politique de la relation. La relation, elle n'élimine pas, elle n'écrase pas, elle ne fait pas table rase. Et puis il faut bien se souvenir que lorsque les colonialistes sont débarqués en Afrique ou dans les pays non occidentaux, ils étaient épouvantés par leur symbolisation. Ils cassaient les statuettes, ils cassaient les idoles, ils cassaient tout ce qui bougeait parce qu'ils voulaient imposer un ordre symbolique monolithique. Nous ne pouvons pas rentrer dans un ordre symbolique monolithique. Tous les êtres, toutes les sociétés contemporaines sont multitranshistoriques, multitranslinguistiques, etc., etc. Donc c'est cette multiplicité complexe qu'il nous faut, avec laquelle nous devons structurer symboliquement les espaces que nous devons habiter ensemble.
Vous aimez, je change complètement de sujet, vous aimez Georges Brassens?
Ah oui, c'est mon pote, oui.
Alors c'est pour vous.
La titance s'en prend saute pour saute. Tout le monde qui a moins mauvais note. Qui moins fait mal, qui moins fait bien. Moins qu'à passer pour un mal chien. Moi pas quoi, moins qu'à gêne un hack, ni personne. Les moins qu'à fait chier, mais moins qu'on dit beau l'homme. Mais des pio pas à dans chichi. Yo ka du mach, yo ka du chi. Oui, des pio pas à dans chichi. Yo ka du mach, yo ka du chi. Tout le monde qui a mal élevé moins. Sauf Ababa, mais yo témoin. Joue la fête, car où les chelchets, moins qu'à demi, qu'on gros lâchait. Ça qui l'épée mâché au pas, ça va pour bibi, moins pépa. Moins pas quoi, moins qu'à, je n'ai hack, ni personne. Les moins pas les tonnes, clairon, commandé, non. Mais des pio pas à dans chichi, yo ka du mâche, yo ka du chi. Oui. Des pio pas à dans chichi, yo ka du mâche, yo ka du chi. Tout le monde qui a longé doit être si moins. Sauf mettre mon yon, mais yo témoin. Si volait jardin à tout prix, pas se mettre à faire qu'on est couri. Moins qu'à voyer en pas de traîneur, mettre à faire qu'à y planter tineur. Moins pas quoi, moins qu'à, j'en ai hack, ni personne. Les moins qui te volent, les chaillés, chaud à pomme. Mais des pio pas à dans chichi, yo ka du mâche, yo ka du chi. Oui, des pio pas à dans chichi, yo ka du mâche, yo ka du chi. Tout le monde qui a couru derrière moi, sauf Jean Dibois, mais yo témoin. Moins pas besoin, ça fait séance. Vous savez moins pas ni en seule chance. Les yoke joignent en code mao. Yoke prendre moins coûte et bio. Moins pas quoi, moins qu'à, je n'ai hack ni personne. Les chimènes moins pas qu'à mener moins en rond. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu. Sauf les aveugles, bien entendu.
Voilà, c'était Sam Alpha, choix musical de Djoubaka.
France Inter, le 18-20, Claire Servageant.
clin d'œil à Georges Brassens qui était né le 22 octobre 1921, il y a 100 ans aujourd'hui. C'est un de vos compatriotes, Sam Alpha, Chamoiseau.
Je ne sais pas s'il est guadeloupéen ou martiniquais.
Je crois qu'il est martiniquais.
Mais j'ai beaucoup écouté sa traduction qui est très, 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 très belle, magnifique. Il ramène Brassens dans notre imaginaire, et ça, c'est précieux. Mais je reste quand même très affectivement lié à la parole, à la parole originelle, qui est une singularité cosmique absolument incroyable. Ce qui me fait rire, c'est que ma mère détestait Brassens, parce qu'elle était absolument fascinée par les trémolos de Tino Rossi. Et quand elle entendait Brassens chanter, elle disait que c'était pas de la chanson, etc., etc. Mais j'ai pu, je ne sais par quel miracle, tendre l'oreille. Et comme j'étais déjà fasciné par la question du rapport à la langue française, le côté un peu médiéval, François Villon, et Brassens, mine de rien, précipite dans la langue avec une beauté, une précision absolument admirable. Il précipite dans la langue française des tremblements qui étaient précieux chez nous, parce que chez nous, la langue française était une cathédrale. Et voir ce que Brassens en faisait, surtout cette espèce de gouaille, cette ironie et puis cette insolence, était absolument un délice pour moi.
Alors, votre maman n'aimait pas, vous en parlez beaucoup dans vos livres de votre maman, Patrick Chamoiseau. Cette maman qui donc était illettrée, mais qui vous a fait réciter vos devoirs.
Oui, illettrée sans lettres. Enfin bon, oui. Elle lisait quand même des choses, elle déchiffrait certains. Parce que ma grande sœur m'engueule tout le temps, me disait non, maman n'était pas illettrée, elle avait des livres, elle lisait, etc. Donc c'était une situation où elle s'efforçait de lire tout ce qu'elle pouvait. Quoi.
Voilà, vous parlez de votre grande sœur, vous étiez 5. Vous êtes le dernier de la fratrie, né en 1953, Patrick Chamoiseau, je me permets de le dire. Cette maman, vous lui avez consacré un livre en 2016, oui. La matière de l'absence, parce que elle s'en est allée à la fin de 1999, je crois.
Ouais,
vous a fallu du temps quand même pour revenir sur cette histoire, dont vous dites elle ne pouvait être exclusivement personnelle et familiale. Avec vous, c'est toujours politique.
C'est toujours politique. Et en fait, nous sommes tous, les artistes sont seuls, les écrivains sont seuls. Je ne représente pas la Martinique, ni une langue, ni une histoire. Je représente une expérience au monde, un cheminement. Donc en racontant mon enfance, j'ai surtout essayé de comprendre ce qui, dans cette enfance, a fait de moi un écrivain. Mais à mesure que j'écris, la réalité de la situation apparaît, c'est-à-dire nos cultures, ce sont des cultures matrifocales, où le soleil central, c'est pas le père, c'est la mère. Et le père est une sorte de satellite périphérique, comme ça, une sorte de comète qui tourne autour, mais le cœur nucléaire. Et j'ai découvert à quel point toute mon imprégnation sensible, ma découverte du monde, et surtout mon accès à la lecture, a été organisée par ma mère. Elle a une importance absolument incroyable. Et tous mes romans sont des romans de femmes. Et c'est précieux, parce que ça m'a permis, cette imprégnation, de lutter contre l'invisibilité qui pèse dans toutes les cultures du monde, l'invisibilité qui pèse sur la condition féminine et sur les femmes en général. J'ai eu en face de moi une femme formidable, une manière de pouvoir, une manière d'autorité qui n'était pas celle qu'on peut connaître lorsqu'on est un homme.
Tous vos romans sont des romans de femmes, avec notamment Le Goncourt, parce que c'est une femme qui vous guide.
Oui, Marie-Sophie Labourieux.
Dans cette histoire, Le Goncourt, c'était en 1992.
L'Académie Goncourt décerne le prix 1992 à Patrick Chamoiseau pour Texaco, qui a été désigné au deuxième tour de scrutin par 7 voix contre 3 à Patrick Besson pour Julius et Isaac.
Sacré moment, Patrick Chamoiseau.
Ah oui, j'étais à Strasbourg. Mais bon, je n'ai jamais écrit pour avoir des prix. C'est vraiment des organisations qui n'étaient pas...
On ne peut pas dire que c'était une surprise, parce que votre livre avait été salué...
Pratiquement sur toutes les, sur toutes les sélections. Mais ça ne m'a pas touché particulièrement, en ce sens que ça n'a pas modifié mon projet d'écriture. Je crois qu'il était déjà là. Le Goncourt peut être destructeur si on pense qu'écrire, c'est essayer de récupérer je ne sais quelle considération, quel honneur. Bon, l'écriture d'un créateur contemporain, je fais la différence entre les créatifs et les créateurs. Les créatifs, ils vont organiser des choses dans l'air du temps, ils vont produire des choses qui peuvent être intéressées. Le créateur, il se construit, il construit sa vie avec son œuvre. À ce moment-là, rien ne peut l'ébranler.
Le plus surprenant dans cette histoire, c'est que vous avez donc eu le Goncourt, que le Goncourt, ça assure un certain confort, en tout cas une notoriété, mais que vous avez poursuivi votre métier, parce qu'on l'oublie, ça aussi, Patrick Chamoiseau. Vous avez fait des études de droit, puis vous êtes devenu éducateur pour les services judiciaires, vous avez travaillé en milieu ouvert, vous avez travaillé en prison, ici, dans l'Hexagone.
À Fleury-Mérogis,
oui. Voilà, puis après, vous êtes reparti en Martinique, vous avez poursuivi ce travail. C'était votre métier?
Ah oui,
vous êtes éducateur.
Oui, écrivain, c'est pas un métier. Écrivain, c'est un état. C'est-à-dire que écrivain, c'est un état poétique. Je suis un artiste et je vis en artiste. À partir de là, j'avais cette opportunité, cette fibre, hein, parce que j'ai une fibre un peu politique. J'ai le souci de l'injustice, de la misère, le souci d'aider ceux qui souffrent. Et ce métier me permettait de rester en première ligne. J'ai été en première ligne des modifications absolument ahurissantes qu'ont connu les sociétés françaises et surtout la société martiniquaise sous la frappe néolibérale. Beaucoup de gens s'attardent encore sur les archaïsmes coloniaux qu'il faut régler d'une manière ou d'une autre, mais je suis absolument clair sur le fait que la pensée capitaliste néolibérale est quelque chose qui est absolument effrayant et nous mène finalement vers presque une destruction de la planète et de l'espèce humaine.
Vous avez réussi à faire les deux, donc votre métier d'éducateur et écrire, sachant que les journées n'ont que 24 heures, il faut quand même trouver le temps. Vous avez écrit des tas de livres, Patrick Chamoiseau, je voudrais quand même citer les deux derniers, Manifeste aux éditions La Découverte, ce sont des tribunes que vous avez signées. Il y a aussi Le Compteur, La Nuit et Le Panier au Seuil, on aurait pu en parler longuement, c'est très beau. Vous auriez pu nous expliquer ce qu'est une sentimentèque, parce qu'en plus vous inventez des tas de choses. Mais je voudrais qu'on termine quand même sur Baudelaire, parce que c'est donc dimanche et vous m'avez apporté un poème de Baudelaire.
Ah, non, je n'ai pas, mais si vous
vous l'avez pas,
je
vouliez bien, pas me
je veux
me
bien vous lire le poème central. Pour moi, il y a un poème central dans l'œuvre de Baudelaire, c'est Correspondance, qui donne toute sa poétique.
Allez, je vous l'ai apporté là. J'aurais dû vous le donner. Un petit peu compliqué, on va y arriver.
Je vous le lis alors.
Allez, on y va et ce sera le cadeau de fin.
La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qui l'observent avec des regards familiers. Comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité vaste, comme la nuit et comme la clarté, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants, doux comme les hauts bois, verts comme les prairies, et d'autres, corrompus, riches et triomphants, ayant l'expansion des choses infinies, comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens, qui chantent les transports de l'esprit et des sens. Tout est là, tout Baudelaire est là.
Je ne sais pas, chers auditeurs, si vous vous rendez compte de la chance que vous avez eue d'avoir cette lecture en direct sur France Inter avec Patrick Chamoiseau, qui sera au musée d'Orsay dimanche à 17h avec Raphaël Imbert. Un grand merci, Patrick Chamoiseau.
Merci de l'invitation.
Merci mille fois d'être venu ce soir sur France Inter. Ensuite, ce sera retour au pays natal, c'est ça, avec un petit détour par la Guyane, si j'ai bien compris. Ouais. Un très, très grand merci, Patrick Chamoiseau.